I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, notre invité est journaliste cinéma pour les magazines Trois Couleurs, Le Film Français et Cinématiseur notamment. Vous pouvez aussi l'écouter dans son passionnant podcast 7ème Science et la voir discuter série sur le plateau du Cercle Série diffusé sur Canal+. Et c'est aussi, et peut-être surtout, une fière représentante picarde, c'est Perrine Quenesson. Salut Perrine.
Salut Thibaut, ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Année Lumière et je suis très heureux de t'avoir parmi nous.
Merci.
Aujourd'hui, après quelques épisodes consacrés à des millésimes anciens, nous revenons faire un tour au 21e siècle avec une année que vous avez tous connue, une année pleine de films mastodontes et de nouvelles expériences, d'animations sous toutes ses formes et de belles promesses. Au programme, l'événement Avatar et la révolution 3D, Disney, Pixar et compagnie et la grande année de l'animation mondiale, et un retour sur le modèle Blumhouse, le tout premier film de Xavier Dolan, et bien plus. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'année 2009. Bad Romance de Lady Gaga, souvenez-vous, on écoutait ça, vous écoutiez ça en 2009, mais pas que. Perrine écoutait ça en 2009.
Je dansais sur ça en 2009, c'est sûr.
Mais pas que, 2009, c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi l'année de la dissolution du groupe Oasis à Rock en Seine, souvenez-vous.
Ah oui, j'y étais.
Exactement.
Je les ai attendus et puis ils n'étaient pas là.
Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont finis.
Et
surtout, l'année aussi de la disparition de King of Pop Michael Jackson le 25 juin. 2009 voit aussi l'apparition notamment de la crypto-monnaie du Bitcoin, du prix Nobel de la paix de Barack Obama ou encore, tiens, de la pandémie mondiale de grippe H1N1 qui toucha près de 2 milliards de personnes dans le monde. Un petit air de déjà-vu. Souvenez-vous, on jouait tous à Angry Birds cette année-là. On découvrait Parks and Recreation et Glee à la télévision alors qu'on disait au revoir à Battlestar Galactica et surtout au médical drama culte Urgence qui s'en allait après 15 saisons. Mais 2009, c'est aussi et surtout du cinéma. Et dans les salles, on allait voir le 6e volet des aventures de Harry Potter, le Star Trek de J.J. Abrams et le Watchmen de Zack Snyder. On se faisait une drôle d'idée de relation amoureuse avec 500 jours ensemble. On était scotchés à notre siège devant Enter the Void ou Un prophète de Jacques Audiard ou le Ruban Blanc Palme d'Or cette année-là, Ruban Blanc de Michael Haneke. Et on se marrait bien devant OSS 117, Rio ne répond plus, le fandard Zombieland et ou encore Very Bad Trip. Et cette année-là, un film plus que tous les autres fait l'événement, il est dans toutes les discussions et sur toutes les rétines. Révolution à l'écran, il veut aussi bouleverser la façon dont on regarde les films et dont on les vit, notamment grâce à la technologie de la projection en 3D. Ce film est au cœur de notre premier thème, il est réalisé par James Cameron et il s'appelle Avatar. Cette musique, c'est celle donc de Avatar, réalisée par James Cameron, musique de James Horner, sortie donc le 16 décembre 2009. Souvenez-vous, on était en plein cœur de l'hiver. C'était le film événement, le film à voir, le film qu'on nous teasait depuis plusieurs mois, qui était à la Comic-Con en été à San Diego, et qu'on nous annonçait donc comme l'événement, comme l'expérience à faire, à vivre avant toute chose. Ça nous vendait des effets spéciaux révolutionnaires, ça nous vendait le retour de James Cameron 12 ans après Titanic. Tu te souviens, toi, de l'événement Avatar? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as, en tant que spectatrice?
Ah oui, c'était, je me souviens que c'était énorme. Enfin, tout le monde en parlait tout le temps. Il y avait ceux qui l'avaient vu un petit peu en amont, les projections presse. Il y avait des projections presse un peu secrètes, tout ça. Enfin, il y avait vraiment, tout le monde était là, genre, oh là, vous allez en prendre plein la vue, c'est incroyable. Il y avait aussi cette espèce de combat sur ceux qui l'avaient vu dans un écran de cinéma, j'ai envie de dire classique, et ceux qui l'avaient vu en IMAX. Et genre, vous n'avez rien vu si vous l'avez pas vu en IMAX. Enfin, c'était le combat du plus, c'est ça qui était assez rigolo autour d'Avatar, c'était celui qui l'avait plus vu dans les meilleures conditions, les conditions 500 fois plus, donc c'était vraiment le combat de, c'était un petit peu un combat de pénis, j'ai envie de dire, autour d'Avatar.
Effectivement,
quand même.
T'avais ce côté, ouais, faut le voir en IMAX, en 3D. Moi, je me souviens d'un marketing assez agressif, parce que en 2009, j'arrivais à Paris, et je crois que t'arrivais aussi.
Ah bah moi aussi, oui, je débarquais vraiment, j'habite à Paris, pour la première fois.
Et du coup, t'arrives dans la grande ville, et tu vois Avatar, les posters, les partout, t'avais l'impression que t'avais un espèce de monopole, et tout le monde tendait vers ça, vers cette expérience, et c'était le film qui devait révolutionner le cinéma à l'époque. Et surtout, c'est un film qui mettait en avant l'expérience Avatar, avec comme argument fort... cette projection en 3D, souvenez-vous, cette projection avec des lunettes 3D et ce film qui devait vous arriver en plein visage, se jeter sur vous en permanence. Cette projection 3D est donc l'argument principal. Sur 3500 écrans aux États-Unis, plus de 2000 sont convertis à la 3D pour justement accueillir Avatar comme il se doit. En France, le film arrive sur 800 écrans et plus de 500 sont convertis à la 3D justement pour accueillir l'expérience Avatar et le proposer aux spectateurs comme il se doit. La projection 3D, pour rappeler aux gens, c'est donc effectivement ce modèle, vous avez déjà tous dû le vivre en salle, vous êtes tous avec des lunettes, vous arrivez donc dans un cinéma et vous avez ces effets de projection, cette profondeur qui joue et vous avez l'impression que ce cinéma-là vous touche. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé avec Avatar, bien sûr, en 2009, c'est quelque chose qui a déjà été très populaire, notamment dans les années 50, les fameuses lunettes bleues et rouge, puis il y a eu un sursaut dans les années 80, avant que ça redevienne surtout un gimmick un petit peu confidentiel qu'on pouvait voir à la Géode ou au Futuroscope par exemple. Et au début des années 2000, t'as un retour de la popularité de cette projection 3D, notamment grâce à l'arrivée du numérique, de la HD, de la IMAX et plein de choses comme ça, avec des films comme Le Pôle Express, Spy Kids, Beowulf, Voyage au centre de la Terre. Il y a eu beaucoup de ressorties Disney, Toy Story en 3D, Titanic, Jurassic Park en 3D, plein de choses comme ça. Et Avatar, donc, qui est cet événement mondial dont on parlait avec Perrine, et qui va être un succès phénoménal, puisque Avatar, c'est 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le record de box-office mondial de tous les temps pendant 10 ans avant qu'il soit détrôné par Avengers Endgame l'année dernière. Et pour conclure cette petite parenthèse sur la projection 3D, il faut savoir que Avatar a eu un effet phénoménal sur l'industrie cinématographique dans son ensemble, puisqu'il a lancé véritablement un nouvel âge d'or de la 3D. La projection 3D des films en 3D, comme je vous le disais, avant Avatar, c'était 2 à 5% des revenus salles aux États-Unis. Avec Avatar, dans les années 2009, 2010 et jusqu'à 2012-2013, c'est près de 20%. Donc il y a eu vraiment un sursaut et le film Avatar a du coup a tiré plein d'autres films qui ont profité de cette technologie de la projection 3D. En plus de voir arriver des télés 3D. Je ne sais pas toi si Perrine, tu as eu une télé 3D à la sortie d'Avatar, ça t'a poussé à acheter une télé 3D ou des Blu-ray 3D par exemple?
Non, pas du tout. En salle, c'est rigolo parce que l'écran est immense. Et... En effet, tu parles d'expérience Avatar presque encore plus que de film ou de sensations cinéphiles. En fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette... expérience de la technologie. Et d'une certaine façon, Avatar, presque à sa façon, a un peu... alors, ça n'a rien à voir, mais moi, ça me fait penser un peu à la réalité virtuelle. C'est-à-dire que il y avait cette sensation d'immersion totale. La VR, voilà, qui a vraiment... Pour le coup, la VR, il y a l'idée de l'immersion. On a le casque sur la tête et tout ça. Et on voit en 360 degrés. On est intégré un petit peu à cette narration. Et Avatar, avant vraiment l'avènement de la VR... faisait ça dans les salles de cinéma quand on était en IMAX. Il y avait cet écran immense, la 3D, et si on était assez proche de l'écran, mais pas trop proche non plus, et si on avait trouvé la bonne distance, on arrivait à avoir l'impression d'être dans cette image-là. Donc c'est vrai que c'était vraiment le mot expérience, c'est le mot qu'on peut employer quand on parle du film.
Cette quête de l'expérience ultime, d'être bien placé dans la salle, de le voir sur le bon écran, surtout à Paris, il fallait trouver le bon écran, t'en as pas beaucoup,
les bonnes lunettes.
Au début, il y avait un petit quiproquo sur des bonnes lunettes, des mauvaises lunettes, celles qui marchaient pas. Parfois on recevait des lunettes en salle et puis elles marchaient pas, du coup on avait un œil qui marchait pas, bref, on devait sortir et en récupérer. Il y avait tout un...
des lunettes, c'est chiant.
Voilà, et du coup il y avait tout un imbroglio. Mais c'est vrai que Avatar, et on va parler aussi du film, c'est important, c'est un film qui joue complètement la carte de cette projection 3D, qui joue complètement la carte de bonjour, je suis une expérience à part entière. Et c'est vrai que moi, j'ai dû le revoir pour le podcast et je ne l'avais pas revu depuis 2009 pour moult raisons. C'est vrai que le film, le premier plan du film, pour le rappeler à nos auditeurs, la caméra comme ça sort de la brume et arrive sur un défilé de forêt et plonge, il va plonger dans la forêt de la planète Pandora. Donc il y a vraiment cette note d'intention dès le premier plan du film. Bonjour, on va vous faire rentrer dans le monde, on va vous faire rentrer dans Pandora, on va vous faire rentrer dans l'image. Après, mine de rien, c'est aussi le propos du film, hein. C'est l'histoire de Jack Sully qui est un ancien militaire américain qui se trouve dans un fauteuil et qui va du coup emprunter le corps d'un avatar, cette créature de la planète Pandora extraterrestre, et il va pouvoir, en allant dans ce nouveau corps, vivre une aventure et toute une histoire tout au long des 3 heures de film, mine de rien. Et c'est vrai que c'était un film de 3 heures.
Non, mais puis oui, tu le disais, en effet, le personnage lui-même vit cette immersion, ouais, que nous, on est censé avoir en salle. Et moi, je sais que la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'était sur un écran tout à fait classique. Je me souviens, je crois que c'était au Gaumont des Champs-Élysées, là, Gaumont-Marignan. Et honnêtement, ça m'avait un petit peu laissé toute l'expérience qu'on nous avait teasée, comme ouais, tu disais, m'avait un petit peu laissé à côté. Quoi. C'est ça. Et un petit peu de marbre. Et puis, je l'ai revu quelques temps après, vraiment peut-être 2 semaines après, en écran IMAX, pour le coup, bien placé. Et là, pour le coup, j'ai vraiment compris que c'était, d'un seul coup, je me suis dit, peut-être qu'on me vend plus une vraie expérience technologique. Voilà, et tu parlais tout à l'heure du futuroscope et de la géode, ouais, mais d'une certaine façon, c'était un peu plus ce que j'ai ressenti, ouais, cette immersion-là technologique, encore plus que finalement l'événement cinématographique, mmh, en fait.
Et c'est vrai que j'avais souvenir de retrouver un film effectivement impressionnant, mais je m'attendais à être un peu déçu véritablement, et je l'ai revu du coup pour le podcast. Et il faut avouer que le film est toujours aussi impressionnant. On est quand même 11 ans après et le film n'a pas vieilli, et toujours même impressionnant techniquement et à plein de degrés. Et on sent que là, James Cameron veut aussi faire un film un petit peu présentation de cette technologie, parce que, et sa mise en scène, et oui, et son univers aussi, ce qu'il raconte et sa forme, enfin, vend parfaitement cette technologie. On a des lances, des arcs qui sont pointés vers nous, on a cette caméra qui plonge, on a des choses au premier plan. Donc il y a beaucoup de scènes comme ça, il y a toute la maestria du réalisateur James Cameron qui joue en faveur de cette projection 3D, en disant regardez tout ce qu'on peut faire.
Aussi, l'objectif de James Cameron, bon, faut pas oublier que c'est quand même un très très grand cinéaste et que c'est quelqu'un qui manipule incroyablement bien la technologie au service aussi de l'art quand même. Et c'est vrai que l'idée, je pense aussi, du cinéaste à ce moment-là, quand il veut nous offrir ce choc visuel, c'est un petit peu d'une certaine façon ce que faisait Spielberg quand il a fait Jurassic Park, où d'un seul coup on voit les dinosaures pour la première fois avec une technologie qui finalement n'était pas si employée jusque-là, pour lequel il a posé finalement une sorte d'étalon de patron comme ça, qui depuis, quand on re-regarde Jurassic Park, moi j'ai toujours pas l'impression, bon ok c'est mon film préféré, mais je veux dire, et j'ai toujours pas l'impression que les dinosaures ont vieilli plus que ça. Et c'est vrai que je pense que finalement cette force technologique et surtout la précision avec laquelle et le temps avec lequel il travaille, James Cameron, font que de ce point de vue-là, Avatar a peu de chances de vieillir. Il a marqué, il a été un étalon vraiment de ce que pouvait être au mieux la 3D et cette performance capture en fait qu'il a vraiment perfectionné.
Oui, parce que c'est la performance capture que peut-être vous qui nous écoutez, vous avez pu retrouver avec Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, avec plein d'autres films qui ont utilisé la performance capture. Toi, tu ferais vraiment un parallèle entre Jurassic Park de Spielberg et Avatar de James Cameron, notamment par rapport à ce film étalon qui aurait marqué toute une génération de...
Qui marque un événement technologique, oui, vraiment. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas lui qui a inventé la performance capture, c'est lui qui l'a peut-être poussé dans des retranchements encore plus forts que ce que n'avait pu faire peut-être déjà Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, qui était déjà incroyable. Hein. Pareil, Gollum, quand on le revoit, c'est quand même toujours assez, assez stupéfiant. Mais lui, il l'a vraiment fait à la hauteur de tout un film. Je pense qu'à ce niveau-là, il a marqué un coup. Il y avait un côté, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus nier que c'est ce film-là qui va être le marqueur de l'avènement de cette performance capture, qui maintenant est une technologie tout à fait adoptée, en fait, acquise et comprise par le public. Comme Jurassic Park avait fait ça avec les effets 3D, il avait aussi marqué un coup où d'un seul coup, une fois qu'on a eu ces dinosaures comme ça, on ne pouvait plus les imaginer autrement. Et après lui, ben finalement, on a accepté totalement ces CGI. Et il a créé une symbiose parfaite entre ce qu'il voulait nous raconter, ce qu'il voulait nous montrer et le résultat final. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'est Avatar à ce niveau-là.
Comme tu le disais, il a marqué son époque, ça a été un maître étalon. Et notamment du coup pour cette fameuse projection 3D, comme je l'avais dit, il a tiré une industrie entière mondiale vers cette projection 3D, et pourtant cette 3D, si vous regardez autour de vous, elle est plus trop là. Et pourquoi ? Et pour une bonne raison, puisque cette 3D, elle a commencé assez rapidement à fatiguer un peu tout le monde, simplement puisque le public s'est lassé de cet effet qui était certes amusant, certes impressionnant au premier abord, mais qui faisait aussi mal à la tête, qui avait un coup, il y avait un coup des lunettes qui était un peu relou. Et puis nous, on porte des lunettes, oui. Je sais qu'on devait mettre des lunettes au-dessus des lunettes, donc c'était
horrible.
Assez agaçant, donc en fait les gens ça amuse un peu au début, et en fait très rapidement les gens ça les a fatigués de payer en plus pour la 3D.
Ouais, parce qu'il y avait le côté gadget un peu de l'affaire, et en fait et aussi même certains films, beaucoup de films, je pense qu'il a fait du mal à la 3D à un moment donné, c'est que James Cameron lui il avait pensé son film en 3D, l'avait pensé tel quel, donc le film était fait dans l'idée de la 3D, ça on peut pas du tout lui retirer quoi, il y avait vraiment cette pensée originelle dès la création du film, et d'autres comme tu dis l'ont converti au 3D, c'est pour ça que quand on voit en effet un Terminator ou un Jurassic Park ou un Titanic en 3D, ça n'a aucun sens parce que le film n'est pas pensé tel quel, donc ça c'est juste, ça devient très très gadget, et comme toute chose gadget un petit peu, bah on s'en lasse assez vite.
Tu le dis, le public se lasse et va se lasser puisque dans les années qui vont suivre, 2016, 2017, 2018 et maintenant effectivement en 2020, la 3D va générer beaucoup moins d'argent et va ramener à peu près l'argent qui ramenait avant 2009, et toute cette industrie générale, la création des TV 3D et la création des Blu-ray 3D va elle aussi un petit peu tomber dans l'oubli. D'ailleurs les télé 3D vont arrêter d'être produites à peu près généralement en 2017, et c'est vrai que maintenant le débat est plus tellement autour de la 3D en 2020, le débat est plus autour du streaming, le débat est plus autour de la qualité de l'image, de la 4K, etc., etc. Et la 3D a un peu disparu des discussions et des écrans.
C'est plus un argument marketing en tout cas.
C'est plus un argument marketing. On est 11 ans après, j'ai envie de te poser la question, Perrine, qu'est-ce qui reste de cette frénésie 3D, de cette époque qui mine de rien a duré pas si longtemps ? Est-ce que tu as des films toi qui t'ont marqué particulièrement que tu retiendrais ? On a parlé d'Avatar, moi je pourrais citer Hugo, il y avait Hugo de Martin
Hugo
Scorsese,
Cabré, c'était
Hugo Cabré effectivement, qui, justement avec Martin Scorsese, donc qui lui empoigne, prend en main cette technologie 3D et en fait quelque chose, parce qu'il pense sa mise en scène justement dans cette optique-là.
Et en plus, c'était très réfléchi, parce que comme le film revenait sur Méliès et les origines du cinéma, enfin, d'un seul coup, il y avait une vraie réflexion un petit peu méta entre à la fois cette 3D et Méliès qui faisait des effets spéciaux aussi, tout seul dans son atelier à Montreuil. Donc c'est vrai qu'il y avait une réflexion, cette 3D, encore une fois, elle n'était pas inutile, elle avait quelque chose à dire. Ouais. Donc c'est vrai que je ne garde pas grand-chose en fait, de cette 3D.
On cherche, hein, effectivement. Mais tu vois, à part Avatar, à part Gravity, effectivement, moi je me souviens de l'Odyssée de Pi aussi d'Ang Lee, qui avait aussi marqué, mais mine de rien, quand on cherche un point commun à tous ces films-là, c'est qu'à la base, il y a un réalisateur, Alfonso Cuarón, Scorsese, Ang Lee, James Cameron, qui veulent mettre l'expérience 3D au cœur de leurs films et qui n'en font pas un gadget, et c'est peut-être pour ça que ces films-là, Gravity, Pi et Avatar et Hugo, sortent du lot, et c'est peut-être ceux dont on se souvient le plus, mais il n'y en a pas des masses, effectivement. Et pour parler d'Avatar, on a cité avant, et c'était effectivement un phénomène, c'était le film qui a eu tous les records au box-office mondial, et pourtant, Avatar, le plus gros film de l'histoire du cinéma, 11 ans après, est quasiment absent de la culture, de la pop culture. Comment expliquer son absence flagrante d'une culture et de la pop culture et même de la mémoire du cinéma en général ?
Pour moi, c'est plus encore une fois un événement technologique que cinématographique. Mais je pense que ce qui manque un petit peu à Avatar, d'une certaine façon, pour ancrer finalement la pop culture, Pandora, c'était très joli, c'était stupéfiant, c'était néon. Mais tout ce qui était de l'ordre de la coutume, de la culture de Pandora, était assez éteint en fait. Et finalement, on ne sait pas trop de quoi ça part, on ne sait pas trop sur quoi s'appuyer, on ne sait pas ce qu'on défend. Non plus, alors si on défend un peuple proche de la nature, un peu écolo,
un discours écolo,
un écolo qui pour le coup était tout à fait dans l'air du temps et encore peut-être plus maintenant, mais en même temps on avait du mal à comprendre quelque chose de et pour ancrer la pop culture, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une sorte de tradition, de coutume de ce peuple-là qu'on ne connaît pas, qu'on peut s'approprier en fait. C'est pour ça que Star Wars par exemple peut le faire, parce que Star Wars il va créer plein de petites coutumes, il va poser des questions. Et c'est là où j'arrive sur la deuxième raison, peut-être pour moi, pour laquelle il n'a pas marqué plus que ça la pop culture, c'est que le premier, il date de 2009, et on attend Inch'Allah peut-être le deuxième pour 2022. Ouais. En fait, ce qui marque plus de Avatar, c'est l'Arlésienne que finalement le film. Les trois premiers Star Wars, ils étaient sur une période de 6 ans, c'était 77 à 83. Donc, sur 6 ans, on a eu le temps d'ancrer une culture, d'ancrer ces différents peuples, leurs différentes habitudes, leurs relations entre elles. Et donc chacun pouvait s'identifier, faire un choix, on se posait des questions, on pouvait créer, mais au moins on avait quelque chose sur quoi s'accrocher. Finalement, et on pouvait rêver et s'inventer un petit peu de d'exister sur ces planètes-là. Mmh. Et là, en fait, finalement, Pandora, si je pense que le deuxième était sorti quelques années après, eh ben, peut-être que le deuxième développerait plus cette culture oui. Navi et on aurait eu le temps d'un seul coup de se l'approprier de, et encore une fois de pouvoir en discuter et de l'intégrer. Là, il y a quoi ? Il va y avoir 13 ans qui vont séparer ces deux films. Ben, finalement, c'est un petit peu...
C'est des générations de spectateurs qui vivent sans Avatar. Hein. Tu l'as dit, donc 2009, le premier Avatar. Le 2, le 3, le 4 et le 5 qui sont annoncés. Donc, 4 autres films Avatar pour 2022, 2024, 2026, 2028. C'est-à-dire que le dernier Avatar, Avatar 5 potentiellement, est annoncé pour sortir presque 20 ans après le premier film. C'est-à-dire que Avatar a été un film impressionnant une fois, du fait que ça a été peut-être dur à monter les suites rapidement et James Cameron a pris son temps. Il n'a pas, du coup, envisagé le film comme une licence, comme une franchise de manière rapprochée. Et c'est peut-être ça qui a manqué pour impacter le public et les générations de spectateurs sur la durée et faire de Avatar une référence de pop culture en profondeur. Mais...
Après, il prend son temps technologiquement parlant, donc j'imagine qu'en soi, ça va être quelque chose, ça va être encore une fois une expérience incroyable, ce prochain épisode, je le souhaite et je le crois, parce que quand même James Cameron, on pense qu'on en veut, c'est quand même quelqu'un d'assez absolument brillant. Après, je sais pas, peut-être que justement, s'il y a une plus grande régularité des suites, d'un seul coup, Avatar va se développer, le monde d'Avatar, Pandora va se développer, et on va l'intégrer. Ouais, moi, je suis professeur aussi, j'ai des élèves qui ont 18 ans maintenant. Quand je leur parle d'Avatar, ils avaient 9 piges. Ils sont là, Avatar. Très bien. Eux, ils n'ont pas eu justement cet aspect marketing fort. Ils n'ont pas été impactés par ça.
Peut-être qu'on va avoir cette discussion dans 10 ans. Et qu'il y aura eu 4 autres Avatars, et que du coup, peut-être que là, Avatar aura, après avoir enchaîné les films de manière régulière, peut-être que là, il aura eu l'impact sur la pop culture dont on parle là.
C'est très malin de James Cameron, au fait. Peut-être qu'il nous a fait l'Inception. Il nous a dit, tiens, regardez, comme ça rentre. Vous avez identifié les Navi. Je laisse ça grandir en vous.
Pendant 10 ans, comme ça,
genre l'air de rien.
J'infuse.
J'infuse vraiment en souterrain. Et puis d'un seul coup, quand je vous balance les autres, là, waouh. Et là, il n'y aura plus vraiment cette surprise et cette adaptation à faire, puisqu'on l'aura déjà intégré. Franchement, si c'est ça, well done.
Il est fort, je suis sûr qu'il va nous... Il est très très fort, donc il est en avance sur tout le monde. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème. Vous êtes toujours en train d'écouter Anne et Lumière, on est toujours en train de discuter de l'année 2009 avec Perrine Canesson. Et on va sans plus tarder glisser doucement vers notre second thème de l'émission. Ne pleurez pas si vous avez entendu effectivement cette air de musique du compositeur Michael Giacchino. Peut-être que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre transport en train de pleurer puisque cette musique vous rappelle une séquence, un début de film particulièrement traumatisant pour toute une génération. Ce film dont on parle, c'est Là-haut, film de Pixar, Up, réalisé par Pete Docter. Effectivement, le film Là-haut, qui avait ce début, qui nous racontait en accéléré la vie de Carl Fredrickson et de sa femme, Ellie, et qui nous tirait une larme. On ne va pas spoiler, mais je suppose que vous l'avez tous vu, ce film.
C'est plus une surprise, c'est horrible.
Non, c'est horrible, c'est un film magnifique. Pourquoi on parle de Là-haut, de Pete Docter, et pourquoi on parle de Pixar ? Tout simplement parce qu'en 2009, sort dans les salles du monde entier, Là-haut, donc, des studios Pixar, mais également Coraline, mais également Fantastic Mr. Fox, mais également Brendan et le secret de Kells, Marie et Max, L'âge de glace 3, Monstre contre Alien, Kiriti, la maison des contes, La princesse et la grenouille, Tempête de boulettes géantes, Numéro 9, Astro Boy, Summer Wars, j'en passe et des meilleurs, et tous ces films-là ont un point commun, ce sont tous des films d'animation, et ils sont tous sortis en 2009. Je suis sûr que dans cette liste de films, vous avez au moins crié « Oh !» à chacun des styles, parce que c'est mine de rien, l'autre point commun de tous ces films, c'est que ce sont tous des films formidables et de grande qualité. Du coup, c'est pour ça qu'on en a décidé avec Perrine d'en faire le cœur de notre second thème. 2009, cette magnifique année pour le cinéma d'animation. avec tous ces films et bien plus. Alors, au-delà du nombre de films, Perrine, pourquoi, à ton avis, 2009, ça a été une aussi grande année pour l'animation au cinéma ?
C'est stupéfiant déjà, tu l'as dit, en termes de nombre, c'est quand même assez stupéfiant. En termes de qualité, ouais. Parce que dans l'eau, là, que tu disais, franchement, je me disais, il y en a peut-être deux que j'ai pas trouvé vraiment géniaux, enfin, pas terribles, mais c'est quand même pas, c'est pas la fin du monde, quoi.
Beaucoup de chefs-d'œuvre.
Il y a quand même des très, très, très grands films, et surtout, c'est la diversité. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a autant de l'animation 3D que de l'animation 2D que de la stop motion. C'est stupéfiant d'avoir en une année finalement de faire une sorte de tour. Il manquerait presque plus que la rotoscopie, je crois qu'elle y est pas, mais il manquerait plus qu'elle pour faire un espèce de tour de tour d'horizon de ce que peut l'animation.
Ouais.
Et surtout avec à chaque fois des histoires, là on t'a mis là-haut au début, c'est juste pour me faire du mal, mais t'as mis là-haut au début, mais voilà, chacune d'entre elles avec une créativité folle, une intelligence aussi pour la plupart d'entre elles, incroyable. En France, on a un petit peu quand même une forme de racisme de l'animation qui est que l'animation c'est pour les enfants. Et là, d'un seul coup, avec cette diversité et aussi parfois la noirceur, quand on pense à Coraline, c'est quand même un film qui est pas très rigolo. Même Fantastic Mr. Fox, qui est quand même pas si accessible que ça. Le grand public découvert aussi que cette animation, elle était très riche, capable de parler à beaucoup de personnes. Là, d'un seul coup, on a tout plein de films qui prouvent en même temps que cette animation, elle s'adresse à tout le monde, qu'elle est riche et qu'elle est créative et diversifiée. Mmh. Et moi, je pense que c'est ça la force de cette année 2009. Un alignement des planètes sur l'animation qui est dingue, vraiment dingue.
Oui, effectivement, l'animation, c'est pour enfants. Là-haut, c'est quand même un film qui a comme héros principal un octogénaire. Non, mais je suis sûr que ce soit peut-être le seul héros octogénaire d'un film d'animation. Encore aujourd'hui, en 2020, il n'y en a pas beaucoup des octogénaires héros de films d'animation.
Mais c'est vrai que devrait plus.
Mais voilà, l'octogénaire est quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et de dire bah tiens, on va arrêter de mettre des jeunes gens dynamiques ou des enfants en héros principal, on va mettre un octogénaire qui a du mal à marcher et on va en faire un héros de film d'action, mine de rien. Donc il y a là-haut qui se retrouve donc. En plus, en ouverture du 62e Festival de Cannes, ce qui est une première pour un film d'animation, qui ouvre le Festival de Cannes comme ça, il est nommé à l'Oscar du meilleur film. En plus d'être nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation, il est nommé à l'Oscar du meilleur film, donc avec les films en prise de vue réelle. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'était pas arrivé.
La Belle et la Bête.
La Belle et la Bête qui avait déjà ouvert le bal en 91.
C'est le cas de le dire.
Exactement. La même année, donc, on a parlé, il y a Fantastic Mr. Fox, qui est le premier film d'animation en stop motion de Wes Anderson, donc un réalisateur qui est plutôt habitué à faire du film en prise de vue réelle. Il y a Coraline, qui est le nouveau film d'Henry Selick, qui était aux manettes d'Étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi un classique, et qui est le premier long-métrage de la société Leica, qui fera plus tard, qui a fait récemment Kubo, qui est un film magnifique, mais qui a fait donc Coraline, qui a fait les Box Trolls, qui a fait Norman, Paranorman également. 2009, c'est aussi l'année du retour de Disney à l'animation classique, puisque La Princesse à la Grenouille, qui est le premier film avec une princesse afro-américaine, qui est aussi un jalon important dans l'animation. Donc, il y a un retour à l'animation 2D après plusieurs films, après 5 ans d'animation en 3D, qui avait fait Chicken Little, qui avait fait La Famille des Robinson, etc., etc. Donc là, ils reviennent, on va dire, à leurs premières amours. Et il y avait également le film Tempête de boulettes géantes, qui est l'un de mes films préférés de cette année, et qui est le premier film du duo Phil Lord et Chris Miller, qui fera plus tard La Grande Aventure Lego, et qui scénarisera également Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a été l'Oscar du meilleur film d'animation il y a un an, et qui est un film magnifique. Et donc le Phil Lord et Chris Miller, qui est quand même une des belles découvertes de cette dernière décennie, puisque voilà, c'est un duo assez formidable. Alors moi, j'ai cherché des raisons à pourquoi autant de films d'animation aussi magnifiques, pourquoi, c'est, comme tu disais, c'est cet alignement de planètes sublime en 2009. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a eu un alignement des planètes, c'est-à-dire que dans les années 90 et 2000, il y a eu une espèce de boom du cinéma d'animation, notamment parce que la télévision a pris le pas, on se souvient des Animaniacs, on se souvient de toutes ces séries d'animation qu'on regardait quand on était gosse. Et c'est vrai que dans les années 90-2000, il y a eu un gros sursaut avec Cartoon Network, Nickelodeon, Bob l'éponge et plein de choses comme ça. C'est aussi peut-être la 2009, les rejetons de la belle décennie 90 de Disney, avec La Belle et la Bête, avec Aladdin, avec Le Roi Lion. Et du coup, c'est peut-être aussi ces enfants-là qui viennent arriver en 2009 à maturité. Et moi, j'aime bien aussi voir 2009 comme un croisement. C'est-à-dire qu'en 90-2000, je le répète, il y a eu effectivement Pixar qui est arrivé avec l'animation 3D qui a eu un gros boom, qui a explosé sur les écrans. Et au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il y a eu Shrek, il y a eu tout le monde qui a décidé de faire de la 3D. Et du coup, l'animation et Disney, au début des années 2000, ont connu un petit ventre mou. Disney était un peu moins là et il y a eu un grand chambardement en règle générale, dans le cinéma d'animation dans le monde, les gens ne savaient plus trop quoi faire. Est-ce qu'on devait faire de l'animation classique en 2D ? Est-ce qu'on devait faire de l'animation 3D ? Est-ce qu'on devait faire autre chose ? Bref, l'animation mondiale a dû se réinventer. Au bout d'une décennie de gestation, peut-être que plein de studios se sont créés, plein de pistes se sont créées, et tout a commencé à naître. Peut-être qu'il y avait une sorte de raison comme ça, de cette réflexion un peu latente au cœur du cinéma d'animation en particulier. Bref, c'est une de mes réflexions.
Non, je suis assez d'accord sur l'idée de la gestation, en fait. C'est-à-dire que en effet, il y avait cette magnifique décennie des années 90 où la 2D était au top. C'était, il y avait un renouveau de Disney avec la 2D démentielle. Et puis, en effet, Shrek qui marque les années 2000 et Pixar l'avait fait avec Toy Story, mais vraiment assoit cette 3D comme une sorte de référence visuelle plus ou moins moche.
Le futur du cinéma d'animation.
Cinéma d'animation. Et c'est vrai que 2009, il y a tout qui se rencontre, en fait. Tout vient. Il y en a qui viennent nous dire au revoir, il y en a qui viennent nous dire bonjour. Ouais. Finalement, quand on regarde La Princesse et la Grenouille, c'est à la fois un marqueur, parce qu'en effet, c'est la première princesse afro-américaine, et c'était un chant du cygne aussi pour marquer une transition, puisque c'est vrai que depuis quelques années, Pixar s'était vraiment imposé comme le modèle Disney. D'ailleurs, tout le monde confondait Disney et Pixar.
Ouais, ouais, ouais.
Il y avait des combats très forts. Interne, Disney avait besoin de se revendiquer aussi. Auprès de Pixar, même s'ils avaient racheté Pixar, c'était quand même deux studios un petit peu concurrentiels. Pour moi, la Princesse et la Grenouille va venir faire ce chant du cygne, de dire voilà, ça c'était la grande époque, une certaine grande époque de Disney, maintenant on va transiter vers autre chose. Et après, on a toujours eu ces princesses Disney qui continuent et qui changent de tempérament, et surtout l'idée d'un seul coup d'affirmer quelque chose, lors d'un studio en l'occurrence chez Disney, Laika qui montre un certain style plus rêche, un petit peu plus difficile, un peu plus sombre aussi. On va trouver, moi j'adore par exemple Brendan et le secret de Kels de Tom Moore qui est de Nora Toney. J'ai perdu mon expression de famille, la pauvre. Et qui, lui, est un mélange. Alors, à la fois, met en avant la 2D, une 2D magnifique. Enfin, vraiment, c'est sublime à regarder. Tom Moore, depuis, avec Le Chant de la Mer, etc. Ouais. Et là, il a un film qui doit sortir cette année.
Il s'appelle Le Peuple Loup.
Voilà, Le Peuple Loup, on verra si ça sort cette année.
C'est
compliqué cette année.
Apple, apparemment.
Sur Apple. Mais quel drame. Mais il apporte une 2D ultra travaillée, sublime, avec vraiment des références culturelles aussi. Là, c'était vraiment une référence irlandaise, mais après, on a des références du Nord, des pays du Nord, etc. Enfin, c'est vraiment sublime, mais qui intègre aussi la 3D. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sert aussi de l'ordinateur. Il n'est pas complètement obtus au truc. Donc, on rentre dans une hybridation qui est le résultat finalement de toutes ces décennies précédentes. Ouais. Et d'un seul coup, on est dans des films très affirmés, que ce soit au niveau de la narration, que ce soit au niveau visuel. Très différent aussi, on n'a plus cette hégémonie peut-être de la 3D qui continue à être
bien
très
sûr,
forte, mais on n'a plus l'hégémonie tout à fait de la 3D, et en même temps qui ont intégré l'ordinateur et ses méthodes plus anciennes. C'est-à-dire que c'est au lieu de les opposer, elles se conjuguent. Et je trouve que c'est très très beau en fait. Et 2009 marque ce départ en fait de la conjugaison des types d'animation.
De la prise de conscience après 15 ans la 3D est arrivée, le cinéma 3D est arrivé avec Pixar qui a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière. Le monde d'animation a passé 15 ans à se tâter, à se faire la guerre, à se dire dans quelle direction, que veut le public, dans quelle direction on va. Et comme tu le dis très bien, peut-être que 2009 arrive après cette décennie de réflexion et où tout le monde arrive avec toutes ses pistes et tous ses mélanges. Et ça fait une année 2009 assez formidable. Est-ce que toi, tu as un petit... Là, on a parlé du Brendan et Secret de Kells, qui est effectivement un film formidable. Si vous ne l'avez pas vu, cher auditeur, jetez-vous dessus. Est-ce que toi, tu as un film d'animation préféré dans cette année 2009 en particulier?
Tu l'as cité tout à l'heure en disant que tu l'aimais beaucoup, mais moi aussi, c'est vrai que c'est Tempête de boulettes géantes qui est...
Hilarant.
Pour l'anecdote, tu, dans la présentation, tu as parlé de mon podcast 7ème Science. Et pendant un long moment, le podcast devait s'appeler Tempête de boulettes géantes aussi. Et on m'a dit c'est trop long, donc j'ai fait d'accord.
C'était lié.
Moi, c'est un film que je trouve que c'était une déclaration d'amour à la science, à l'amour de la science, à l'amour de la découverte.
Tu peux nous raconter le synopsis de ce film juste pour rigoler?
Le synopsis de ce film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné de science et d'invention et qui à un moment donné va inventer créer de la nourriture, je crois, comme ça, à partir d'éléments extérieurs, genre les nuages,
créer des plats tout faits.
Des plats tout faits, mais à partir d'éléments extérieurs. Et ça va bien dégénérer. Sa machine Chine va sérieusement s'emballer et il va créer une catastrophe mondiale où on va être écrasé littéralement par la bouffe.
Des nuages de bouffe.
Des nuages de bouffe.
Pour lâcher de la nourriture sur le monde entier.
Alors au début, ça a l'air cool comme ça, hein, mais vraiment, ça devient vite galère. Et c'est très, très drôle. Et moi, j'aime beaucoup l'humour de Lord et Miller. Hein, je trouve qu'il a quelque chose de très pop, de très dynamique, de très dans l'air du temps. Et c'est vrai que le film a cette capacité d'inventivité, de créativité, de surplus même de créativité, parce qu'on est écrasé comme on est écrasé par la bouffe en fait, et en même temps une vraie tendresse infinie pour ces personnages. Et enfin moi je pense que j'ai passé mon temps à dire à tout le monde allez voir Tempête de boulettes géantes à l'époque, et tout le monde me regarde genre Périne, c'est trop long, on comprend pas ce que tu dis. Genre, j'en viens sur Shrek, mais c'est vrai que Shrek c'était très rigolo à l'époque quand c'est sorti, c'était plein de références pop, etc. C'était un peu on pouvait,
ça cassait le quatrième mur un peu, t'avais le côté
constamment voilà. Et puis voilà, il y avait ce truc d'ultra référencé. Et c'était ça qui était amusant, mais finalement c'est ça aussi qui vieillit un peu, parce que d'un seul coup la référence de 2000 c'est pas la même que la référence de 2020. Et là d'un seul coup, ce que j'aime bien dans Lord et Miller, c'est qu'ils ont ce même triple niveau de lecture, ils s'amusent beaucoup là-dessus, mais ça ne périme pas ce qu'ils racontent, parce que d'un seul coup cette lecture là elle est faite à partir des éléments du film, elle est faite sur une drôlerie et sur de la blague qui est inhérente au film et à la narration, et pas elle vient pas de l'extérieur. Donc il crée son propre univers et il en crée finalement, cet univers devient une référence au lieu que le film se remplisse des références extérieures. Et c'est ça que je trouve très puissant en fait finalement chez Lord et Miller.
Merci beaucoup pour cette déclaration d'amour Tempête de boulettes géantes que j'appuie, que je plus sois comme on dit.
Ah oui, tu mets un petit pouce comme ça.
Voilà, je mets un petit pouce plus un ping. Donc si vous êtes fan du cinéma d'animation, jetez-vous, voyez, découvrez les films sortis en 2009, peut-être que vous serez joliment surpris. Donc, on a cité le Brendan et les Secrets de Kells, on a cité Tempête de boulettes géantes qu'on vous invite à découvrir. On a parlé de Là-haut, on a parlé de Fantastic Mr. Fox, de Coraline et de plein d'autres films. Voilà.
Si vous aimez l'animation, mais même si vous aimez pas, justement, si vous pensez que l'animation c'est que pour vos enfants ou vos petits frères ou vos petites sœurs, non, arrêtez ça, quoi. Enfin, juste regardez, faites-vous juste les films de l'année 2009. Déjà, vous verrez plein d'animations différentes. Donc, au pire, vous direz tiens, je préfère ça à ça, et vous allez découvrir un monde absolument fabuleux qui n'est pas les enfants. Il n'y a pas que qu'on a le droit de rêver, quoi. Nous aussi.
Voilà, on ne pourrait pas conclure mieux que ça ce second thème de notre émission sur 2009. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va doucement vers notre troisième thème de cette émission. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas un problème avec votre téléphone ou votre ordinateur. Ces étranges quelques secondes sont en fait la musique de l'intro du logo de la société Blumhouse Productions. Alors pourquoi on vous met ce logo, pourquoi on vous met cette étrange sonorité dans les oreilles pendant quelques secondes pour lancer ce troisième thème? Simplement parce qu'on avait envie avec Perrine de faire un troisième thème un petit peu différent que d'habitude, parce qu'on voulait parler plein de films, de plein de choses, et puis on a essayé de mettre toutes ces choses dans ce troisième thème et de faire quelque chose un peu différent et de faire un petit retour en arrière sur la décennie, sur les 11 ans qui sont passés depuis cette année 2009, et de revenir un peu sur les belles promesses que nous avait fait cette année 2009 et tous les films et toutes les tendances et tous les studios et tous les talents qui sont arrivés, qui ont émergé pendant cette année 2009. Et voir ceux qui ont réussi et ceux qui ont fait flop, tout simplement. Et parmi notamment les choses qui sont arrivées, qui ont fait un grand boom, qui ont éclaté en 2009, c'est justement cette société Blumhouse Productions. Alors, si Blumhouse Productions, Blumhouse ne vous dit rien, peut-être que vous connaissez les films, puisque Blumhouse a produit des films comme Get Out, comme Whiplash, comme la saga Insidious. Récemment, ils ont produit The Invisible Man avec Elizabeth Moss. Et notamment la grande série, la grande saga de films d'horreur, Paranormal Activity. Je suis sûr que vous connaissez cette série, Paranormal Activity, puisqu'en 2009 sortait du coup le premier film de la série Paranormal Activity, produit donc par Blumhouse, qui va, avec ce film-là, mettre en avant, défendre un certain modèle d'horreur à petit prix ou d'horreur gimmick, véritablement. Perrine, c'est quoi le modèle Blumhouse ?
Là, c'est un modèle plutôt malin, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment assez brillant en soi. Paranormal Activity, là, de Oren Peli, c'était un film qui était produit pour quoi, 15 000 dollars ou même moins, et qui en a récolté quelque chose comme 193 millions, ce qu'on appelle une belle affaire.
Ouais. C'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. tout simplement.
Bien wesh. Et donc, donc voilà. Mais et en fait, c'est pas seulement ce petit coup de force, ce petit tour de force que c'est faire Blumhouse, de prendre des histoires finalement assez simples et des trucs un petit peu qu'on pourrait se raconter autour du feu, genre. Et puis là, derrière, il y avait le drap bougé. Enfin voilà, il y a ce côté un petit peu histoire autour du feu, mais à l'écran. Il y a cette partie-là, mais il y a un côté un peu vertueux peut-être aussi chez Blumhouse. Il a longtemps été critiqué pour ça, c'est-à-dire ce côté un peu tu fais des trucs cheap et puis derrière tu vois si ça rapporte, c'est pas très mal. Enfin c'est voilà, tout le monde se lui tombait dessus, mais c'est normal, on tombe un petit peu sur ceux qui ont les bonnes idées, parce que derrière aussi c'est pas que ces histoires-là, mais ces histoires-là elles permettent peut-être de faire sortir des certains cinéastes, de faire découvrir des gens, de donner une première mettre le pied à l'étrier quoi pour certaines personnes. Mais au-delà de ça, il y a un côté un petit peu, j'ai envie de dire, CNC chez Blumhouse, puisque en gros cet argent récolté aussi il sert à investir sur des films peut-être plus gros, plus ambitieux. Je pense à Get Out, je pense forcément à Us. Whiplash, c'est une autre affaire, parce que c'est quand même aussi une petite production. Mais ces investissements plus importants, c'est pour des films qui, avec des cinéastes aussi peut-être très très doués, qui ont besoin encore plus d'émerger.
Jordan Peele, Damien Chazelle. Voilà,
c'est ça, c'est-à-dire que tout se nourrit en fait dans cette histoire. Et Blumhouse a quand même cette capacité de donner sa chance à beaucoup de cinéaste, de créer un univers aussi assez reconnaissable. On sait ce que c'est un petit peu un film Blumhouse, on voit un petit peu les ficelles Blumhouse.
C'est un peu caustique, c'est un peu acide. Hein. Et en tout cas, c'est des films qui sont, je dirais, très américains, ou en tout cas qui ont un regard sur la société américaine assez violent, parce qu'on a pensé à Get Out, qui effectivement parlait de l'Amérique d'Obama. Il y a The Purge qui est sorti... Qui a fait aussi une série de films sur qu'est-ce que c'est l'Amérique peut-être de Trump aussi. Il y a eu The Hunt qui est sorti cette année, qui parlait aussi de cette Amérique de Trump. Ouais, donc c'est des films très acides, très caustiques sur l'Amérique.
Ouais, puis assez franc du collier. Puis surtout des films qui osent, qui tentent, qui essaient, au pire, au risque de se casser un petit peu la figure. Mais c'est vrai que c'est aussi un studio, donc il a été créé en 2000, je crois. Et donc le premier film est sorti en 2009 après avoir fait pas mal de tours dans des festivals. C'est comme ça qu'il a été repéré quand même. Paranormal Activity. Enfin, c'est un studio qui est plutôt intelligent aussi. Bien compris les leçons peut-être des années 2000 à un moment donné, fin des années 90, des années 2000, là où Wes Craven dans les années 90 a un petit peu changé la donne du cinéma d'horreur en le retournant contre lui-même d'une certaine façon.
Avec Scream.
Avec Scream, voilà, d'un seul coup on est un peu tombé dans une période où on savait plus trop quoi faire en film d'horreur, et donc on allait dans des trucs de l'extrême quand on regardait Saw ou Les Hostels ou toute cette saga, enfin cette période
du gore,
le torture porn. Voilà. Donc on allait dans un excès parce qu'on savait plus trop où aller en fait pour attirer le public, donc on partait dans des excès.
On promettait une expérience cathartique, un peu comme Avatar d'ailleurs.
Oui,
ça rejoint un peu.
Mais c'était trash quoi. Et en fait, je pense que c'est un studio qui a compris un peu les leçons, qu'est-ce qui a attiré le public. Donc il est à ce niveau-là, il est pas cynique, mais il est assez malin quand même. Ouais. Et qui ne se gêne pas pour expérimenter. C'est assez. Et donc l'idée des petits budgets, c'est ce qu'on peut. On peut expérimenter plein de choses et on voit ce qui marche. Et d'ailleurs, ils le font encore actuellement quand ils font. Ils balancent là sur Amazon 4 films qui s'appellent Welcome to the Blumhouse, qui sont liés là, comme ça, sous la bannière Welcome to the Blumhouse. 4 films d'horreur, pareil, comme ça, ce côté un petit peu, je raconte des petites histoires qui font peur, un peu la chair de poule, mais en plus sanglant peut-être. Il teste en fait, qu'il a créé donc en 2009 avec Paranormal Activity. On n'avait pas donné cher de sa peau à Jason Blum à l'époque, le fondateur. Je pense qu'il a bien prouvé maintenant en 11 ans qu'on ne peut plus faire sans lui. En fait.
Il a bien prouvé effectivement, puisque la saga Paranormal Activity va déclencher, après ce premier film en 2009, 5 suites. Et un 7e film est d'ailleurs en préparation pour mars 2022. Et cette série de films va engranger 900 millions de dollars au box-office mondial pour un budget total, sur les 6 films, accrochez-vous, de 28 millions. Blumhouse a dû mettre 30 millions au total dans ces 6 films-là et en a récupéré 900. Donc on va pas effectivement à ce que Jason Blum...
Belle opération.
Voilà, Jason Blum de Blumhouse est définitivement malin, donc bravo à lui. Et il a marqué quand même, il a laissé une empreinte non négligeable sur cette décennie de cinéma. Pour continuer notre petit bilan de ces 11 ans de cinéma, on a fait un top, Blumhouse. On va parler d'un flop, ou en tout cas moi ce que je considère comme un flop, tu seras sans doute d'accord avec moi Perrine. Puisqu'en 2009, il y a un film qui sort, qui fait l'événement et qui est la belle surprise, la petite pépite qui sort sur les écrans, c'est District 9 de Neil Blomkamp. Souvenez-vous, c'est cette histoire d'extraterrestres qui ont atterri à Johannesburg en Afrique du Sud et qui se retrouvent depuis 30 ans ghettoisés dans une partie de Johannesburg et exploités par les humains qui essayent de leur soutirer leurs armes et qui du coup depuis 30 ans les exploitent, les ghettoisent, ils sont malades, etc. etc. qui est évidemment une parabole, une métaphore de la réalité en Afrique du Sud et de l'apartheid et des résultats de l'apartheid et de la communauté noire et de la communauté blanche. Et du coup, il y a dans cette District 9 cette SF un petit peu concrète, cette SF un petit peu réaliste avec un propos politique assez fort et assez violent et assez agressif. Elle marque, elle touche et elle promet beaucoup, puisqu'on dit « Ah bah tiens, mon Dieu, est-ce que la SF vient de prendre un tournant avec Neil Blomkamp, ce réalisateur ?» Et on est 11 ans après, et District 9 a été un peu un one-time wonder, on va dire, un peu un coup d'éclat et puis plus rien, puisque Neil Blomkamp, depuis, il a fait Elysium, il a fait Chappie. Du coup, c'est deux films qui, malheureusement, ont un peu repris la même formule de cette dirty tech, de cette SF un petit peu réaliste et voilà, mais peut-être en tournant un peu en rond. Et c'est un réalisateur pour lequel j'espérais beaucoup de choses et qui, malheureusement, n'a pas fait grand-chose depuis. Alors, à un moment donné, il était attaché pour réaliser la suite d'Alien et il avait délivrer, montrer des concept art assez alléchants, assez intéressants, mais malheureusement, ça dépend de la vie, mais en tout cas, Ridley Scott a décidé de mettre cette suite au placard, et Ridley Scott s'est occupé lui-même de la suite d'Alien pour faire Prometheus et Alien Covenant plus tard, et du coup, on ne verra peut-être jamais le Alien de Neil Blomkamp, mais c'est vrai que depuis, Neil Blomkamp, il fait plus grand chose, malheureusement. Il a fait quelques séries, il a fait quelques pubs et quelques courts-métrages.
C'est vraiment la promesse non tenue, quoi.
C'était bien District 9, hein.
Moi, j'avais adoré District 9. Puis c'était... Et ça a même lancé une petite vague derrière de ces cinéastes qui ont émergé avec justement des films comme ça, assez lofi. Une SF un peu lofi comme
tu
ça qui
n'en fait pas. Moon de Duncan Jones.
Je pense à Moon, je pense à aussi il y avait Monster je crois de Gareth Edwards.
Crois. Oui, je
parce
crois
que c'est à chaque fois Gareth Edwards et Gareth Evans.
Moi aussi.
Mais Gareth Evans aussi un petit peu a marqué, même si The Raid c'était comme faisait pas, c'est pas du tout de la science-fiction, mais c'était à la base une petite chose qui d'un seul coup est devenue un marqueur visuel très très fort, la preuve avec sa nouvelle série Gangs of London. Mais je veux dire le fait est que il y avait eu toute cette génération de cinéastes qui toucher à la SF de manière avec les moyens du bord, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qui savaient magnifiquement jouer de la contrainte. Et ça, c'était très fort. Enfin, justement, moi, je les voyais presque comme des descendants de Spielberg par rapport à ça. Et c'était très prometteur, en fait. Alors, il y en a qui s'en sortaient mieux que d'autres, mais en effet, on pourrait parler de Duncan Jones.
Moon était magnifique. Moon, et depuis, malheureusement, il a pas conclu non plus. Il a pas...
Warcraft, bon, voilà quoi. Et, et Neil Blomkamp, en fait, je pense qu'il y a un côté. Il a un peu trop essayé de rejouer la même recette.
Elysium, c'est le même film, véritablement.
Elysium, c'est quasiment la même chose. Il y a encore cette opposition. Lutte de classe, etc. Et puis même Chappie était dans un truc similaire. Il reprenait tout le temps la même recette et au bout d'un moment, elle s'épuise en fait. Ouais. Et ce qui serait intéressant, ce serait de voir justement ce Neil Blomkamp dans quelque chose de complètement différent, dans autre chose. Peut-être rester dans la SF, mais une SF complètement différente. Mais c'est vrai qu'il avait fait avec District 9, on avait respiré d'une science-fiction qui était très spectaculaire, qui était très crépusculaire, puisque tout était négatif et noir.
Plus shiny, c'était plus sale, c'était passé, c'était abîmé.
Puis c'était de toute façon, tout va mal se passer. Puis même, il y avait une surenchère visuelle. Et là, eux, ils ramenaient la science-fiction à quelque chose d'assez essentiel. Et c'était très beau. Et d'un seul coup, il a un peu tourné en rond. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est pas un one-time wonder, en fait. Et je pense pas que ça soit ça chez Neil Blomkamp. Je pense qu'il en a sous le capot. Et que j'aurais très envie de le voir dans quelque chose de très, très différent. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc,
croisons les doigts.
Croisons les doigts pour lui.
Peut-être que la prochaine décennie sera plus tendre avec Neil Blomkamp. Et effectivement, il était prometteur et il l'est toujours. Donc, maintenant qu'on a fait un flop, on va conclure ce thème numéro 3 avec un autre top. Après avoir parlé effectivement de Blumhouse, toi Perrine, tu avais envie de parler d'un cinéaste en particulier qui avait également émergé en 2009 et qui depuis 11 ans, pour le coup, a laissé sa patte, a laissé une empreinte et a laissé un certain cinéma. C'est Xavier Dolan. Parce que Xavier Dolan, en 2009, arrive sur la scène internationale véritablement avec son premier long-métrage, J'ai tué ma mère, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2009, donc, et qui remporte, mine de rien, 3 prix sur 4 de cette quinzaine-là. Donc un premier film assez fou, assez choc, d'un réalisateur qui, à l'époque, a 19 ans. 18 ans, qui est extrêmement jeune, Xavier Dolan. Et, qui depuis, vous connaissez tous Xavier Dolan.
Oui, Xavier Dolan, j'ai envie de dire qu'on aime ou on n'aime pas, ça crée des réactions très très fortes, Xavier Dolan. Hein. C'est soit oui ou non, jamais de la vie. Donc il y a vraiment.
Il polarise.
Et c'est quand même intéressant, un réalisateur qui polarise. C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose qui se passe. Si on dit juste je m'en fous, c'est pas la même chose. Il n'y a rien de pire que finalement l'indifférence. Là, il crée une réaction très très forte. Soit on est adepte de ce style très personnel, très, une intimité criante à l'écran. Ouais. Parce que J'ai tué ma mère, c'est quand même un truc. Il parle que de lui et de son rapport à sa maman. C'est très très intime. Et donc, c'est une intimité qui n'est pas du tout. Impudique. C'est très impudique ce qu'il fait Xavier Dolan. Donc, soit on est touché par ça, soit pas du tout. C'est quelqu'un qui va pas se gêner à faire une sorte de des envolées lyriques qui va utiliser beaucoup la musique moderne pour la réhabiliter un petit peu aussi. Quand on regarde quand il met du Céline Dion dans Momie, non, mine de rien, vous l'aviez du Céline Dion en toutes vos soirées derrière.
Mine de rien, ça marque vraiment.
On ne change pas. Mais par exemple, moi je me souviens aussi, il y a une scène extraordinaire dans Laurence Anyways qui était avec Melville Poupeau où ils arrivent à une soirée sur Visage, Fake to Grey de Visage qui est complètement excessive, too much, lyrique justement. Donc c'est un cinéma très passionné par la forme, passionné par le visuel, passionné par quelque chose qui va impacter l'œil, complètement impudique, presque énervant en fait par rapport à ça. Et c'est vrai, même quand on l'entend parler, on a envie de le foutre des claques. Mais le fait est que c'est en très peu de temps, il a fait, je sais même plus, j'ai plus compté le nombre de films qu'il a fait, mais on est quand même pas loin de la dizaine de films.
En 11 ans, c'est assez formidable.
Il y avait un côté un petit peu nouveau Woody Allen, de ce côté un peu gourmand en fait du cinéma et de production de cinéma. Il a des choses à dire.
Peut-être liberté folle. Il est un peu moins jeune aujourd'hui, mais il était jeune. Il est arrivé sur la scène. Il a fait son film à lui, ses films à lui. Peut-être un peu trop intimiste pour certains. Du coup, ça a peut-être gêné certaines personnes, mais il s'en moque.
Il bouffe tout,
comme tu dis.
Mais il n'empêche que moi, j'ai des images qui me reste. Ce cinéaste, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le fait est qu'il imprime tout de suite son cinéma. Quand on regarde un film de Xavier Dolan, on sait que c'est un film de Xavier Dolan. Il n'y a pas trop de doute. Il y a peut-être l'accent québécois aussi. mais il y a aussi quelque chose visuellement d'ultra empathique, amplifié. Il a pas peur d'aller là-dedans. Il joue de l'image tout le temps. Il joue de la forme parce qu'il aime beaucoup ça. On se souvient de Momie avec son format carré qui d'un seul coup s'étend, se libère en fonction de la narration. Moi, je me souviens de la projection à Cannes de ça, de Momie, mais j'ai rarement vu une salle comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'image s'ouvre, j'ai vu toute une salle faire
« Oh !»
et applaudir. C'était une salle de presse. Des gens qui n'ont pas d'émotion, des gens qui ne réagissent pas, des gens morts à l'intérieur. Et là, d'un seul coup, tout le monde bougeait, ça avait ému toute une salle internationale. C'était brillant.
Et d'avoir un mec de 24 ans ou 23 ans qui fait ça à une salle de cinquantenaire triste et gris,
c'est ça.
Mince.
Mais au moins, il y a une force, il y a un impact Xavier Dolan. Est-ce que c'est une étoile filante qui aura duré peut-être que 10 ans? Je ne pense pas. Je pense qu'il est encore, il en a encore sous le capot. Il veut le montrer. Peut-être qu'il va prendre plus son temps. Il grandit, il vieillit aussi. Mais je trouve quand même que c'est très fort. Peu importe que ça soit qu'on soit aimé ou pas aimé, c'est d'un seul coup d'avoir créé une identité à la fois visuelle et narrative qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça, quand on a à peine 30 piges, c'est très impressionnant. Et encore plus à l'époque, quand il a à peine 20 piges.
D'avoir réussi à faire un cinéma unique, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est quand même peut-être que se recherchent tous les réalisateurs de ce bas monde. Voilà qui conclut sur Xavier Dolan, et voilà qui conclut sur ce troisième et dernier thème de notre émission. Notre émission touche doucement à sa fin, mais on n'a pas tout à fait fini de parler de l'année 2009 de cinéma, puisqu'on va glisser, comme d'habitude, vers notre tour du monde final, où on va pouvoir parler de films dont on n'a pas eu l'occasion de parler jusqu'à présent. Voilà, tour du monde habituel où effectivement on va pouvoir placer nos petites recommandations sur cette année 2009. Et Perrine, tu voulais nous parler d'un film qui est sorti également en 2009. Et pas n'importe quel film, puisqu'on ne l'a pas cité jusqu'à présent, on l'a gardé un peu secret, mais ce n'est pas n'importe quel film et vous l'avez sans doute tous vu de votre côté. De quoi vas-tu nous parler, Perrine?
Dieu, c'était l'horreur de choisir un film en 2009, quel cauchemar. C'est Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. On le veuille ou non, moi je reste une vendue à Quentin. Et c'était, pour moi, c'était, bon, je l'attendais comme le Messie, hein, ce film cette année-là. Je m'en souviens très bien de m'être battue pour aller absolument en salle, de revendre de la place, de racheter la place de quelqu'un qui avait pas de. Enfin, bon, c'était hyper complexe.
C'est sacré, mais
c'était sacré. Je voulais vraiment, vraiment le voir. Et la surprise, enfin, le résultat était à la hauteur de mes attentes. Moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Et surtout, je voyais un nouveau Quentin Tarantino qui rentrait dans une nouvelle ère. En fait, pour moi, il avait clôturé finalement tout un discours sur l'avènement de la femme forte, la femme finalement presque peut-être supérieure à l'homme blanc de plus de 50 ans, puisqu'elle finit par l'éclater littéralement dans Boulevard de la Mort, mais qui partait voilà de Réservoir Dogs jusqu'à Boulevard de la Mort avec cette différente évolution et de prise de place de la femme. Donc je trouvais ça assez grandiose ce qu'il avait su faire à travers comme ça 5 films ou 5 ou 6 films. Et là d'un seul coup il arrive avec ce film qui montre toute la puissance en fait du cinéma, la puissance cathartique et évocatrice du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma peut nous permettre peut-être de régler nos comptes avec l'histoire, de régler nos comptes avec quelque chose qui nous a déplu. Et Dieu sait que la Shoah, c'est quelque chose qui nous a déplu fortement. Mais d'un seul coup, le cinéma nous permet de nous venger. On n'a peut-être pas pu casser la gueule de Hitler, mais d'un seul coup, le cinéma peut le faire, lui. Donc, alors, ça résout pas tout. Ça ramène personne, mais ça fait du bien à un moment donné. Et c'est ça aussi. Je trouve que d'un seul coup, avec ce film-là, il n'est pas le seul à le faire. D'autres l'ont fait et d'autres le feront derrière. Mais il a su, avec une intelligence de la mise en scène terrible, cette scène d'ouverture d'Inglourious Basterds qui joue sur le langage, la puissance du langage, la manipulation du langage.
Christophe Valls et Denis Ménochet
qui passent du français à l'anglais, à l'allemand, et que chaque langue finalement vient raconter quelque chose de à la fois de la scène et de ses personnages. Il y a une puissance là-dedans qui est, enfin, c'est juste ouf, cette ouverture. Je pense que tout le monde est resté scotché. On était tous en tension comme rarement. Et puis voilà, tout le film, finalement, qui n'est pas un film à message en disant « bouh, les nazis, bouh, je sais pas quoi ». Enfin, non, c'est bon, c'est pas nouveau que les nazis, c'est pas les gentils. Donc, c'est le film, juste, il est en train de dire, ben voilà, moi, et on sait que quand même quelqu'un qui aime le cinéma, c'est Quentin Tarantino, il l'a assez dit, c'est quelqu'un d'assez érudit sur le sujet, et il va le rejouer, là, encore une fois, avec les citations qu'on va voir autant visuelles que auditives, parce que bon, avec la musique qui est dans le film, qui est une musique d'ailleurs, moi je trouve très, très intéressante, presque encore plus que dans certains de ses autres films. Ça a été une vraie claque, un vrai plaisir de spectatrice et un vrai plaisir aussi de critique, parce que voilà, d'un seul coup, moi j'ai vu un nouveau parcours pour Quentin Tarantino et qu'il a continué derrière. Quand il fait Django, bah, il règle ses comptes avec l'esclavagisme. Once Upon a Time, et Hollywood, pareil, il va régler ses comptes avec ce qui s'est passé pour Sharon Tate. Il venge Sharon Tate, il va régler ses comptes avec une certaine idée d'Hollywood et une certaine idée du mensonge, du peace and love et du hippie, en fait. Mais c'est pas la faute du hippie, c'est la faute de ce qu'on a fait. C'est très fort, c'est encore une fois majestueux et magistral ce qu'il arrive à faire. Et
tu
voilà.
Le vois comme un film pivot du coup dans sa carrière?
Ah, complètement. Pour moi, il y a eu une première période Quentin Tarantino et il y a une c'est le début de la deuxième période Tarantino dont je suis très cliente. Il y a des gens qui s'en plaignent, mais moi j'en suis très très cliente.
Voilà, si après tout ça vous n'avez pas envie de voir ou de revoir Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, on ne sait plus quoi faire.
Il y a Brad Pitt, voilà.
Il y a Brad Pitt, il y a Diane Kruger, Michael Fassbender aussi, si vous cherchez du choix, il y a du choix. Merci beaucoup pour cette reco, Perrine. Moi, pour ce tour du monde, je vais y aller de ma petite reco, et de mon côté, ce sera un film d'un réalisateur italien qui s'appelle Luca Guadagnino, et c'est Amore, avec Tilda Swinton, Alba Rohrwacher, Marisa Berenson, etc., etc., qui est du coup un film qui raconte l'histoire d'Emma, qui est une épouse d'un riche industriel milanais, qui va passer ses journées monotones dans un quotidien un peu luxueux et barbant, jusqu'au jour où elle va rencontrer Antonio, le meilleur ami de son fils, qui va déclencher chez elle des passions trop longtemps réprimées. Amore, Io sono l'amore, I am love en anglais, qui est donc un film de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, vous le connaissez puisqu'il a réalisé Call Me By Your Name en 2017, donc c'est 8 ans avant. Mais il a aussi fait le remake de Suspiria récemment. Et c'est un magnifique portraitiste de femme, Guadagnino. Et Amore ne fait pas exception à la règle, puisque c'est un magnifique portrait d'une femme prise au piège de sa bourgeoisie, prise au piège de tout ce cadre bourgeois milanais. et qui va revivre, qui va re-aimer et qui va se lâcher dans une passion folle avec quelqu'un qui est bien plus jeune qu'elle, bien sûr. Il pose une question, ce film-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire ressentir quelque chose d'aussi abstrait que le sentiment amoureux, quelque chose d'aussi abstrait que le désir, le tumulte sexuel, l'angoisse du secret, le frisson de l'attente, etc., etc. Tout ça qui est assez abstrait et que le cinéma a tenté maintes fois de montrer et de révéler. Ce film-là, il le traite de manière frontalement et en parle très très bien et contient notamment l'une des scènes de sexe les plus folles de l'histoire du cinéma, quand Tilda Swinton va effectivement faire l'amour avec Antonio dans un champ et que Guadagnino va alterner les scènes de corps qui s'entremêlent avec les scènes de fleurs et les scènes d'abeilles qui butinent et les scènes d'herbes qui se couchent et bref, et la nature, et coller cette nature avec les corps qui s'entremêlent, c'est assez fou. Bref, c'est l'un de mes gros coups de cœur de cette année 2009, Amore de Luca Guadagnino, et c'est ma petite recommandation pour cette année 2009. Donc voilà, c'est un peu ma petite reco, donc si vous l'avez pas vu, Amore de Luca Guadagnino, voilà, qui nous amène vers la conclusion de cette émission d'Année Lumière consacrée à l'année 2009. On a parlé donc de beaucoup de choses dans cette émission, du monumental Avatar et de la projection 3D, de la très belle année de l'animation mondiale entre 2D, 3D et stop motion. On a fait notre petit bilan de la décennie écoulée, du succès du modèle Blumhouse et de Xavier Dolan. Enfin, on a évoqué Inglourious Basterds et Amore de Luca Guadagnino. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette émission. Et avant de vous quitter, j'aimerais une nouvelle fois remercier mon invité Perrine Quenesson. Merci encore Perrine.
Merci de l'invitation.
Merci à toi d'être venue. Je remercie également les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueillent ici dans le studio de la Villette à Paris. Remerciement particulier à Antoine à la réalisation. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission si elle vous a plu. Votre soutien et vos retours font toujours immensément plaisir. Bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Année Lumière. Salut, salut !